Eh bien, il est l'heure d'accueillir Bruno Canard et l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, c'est une rencontre avec Sacha Görg, qui est un auteur bruxellois et éditeur, puisqu'il est le cofondateur de la maison d'édition L'Employé du Mois, MOI, et non pas MOIS. Sacha Görg vient de sortir L'Archipel et il construit avec ce livre une dystopie où, dans un monde où les inégalités ne cessent de croître, Chloé, une jeune précaire et Tim, un oisif des beaux quartiers, vont réinventer leur rapport au monde. Un récit entre métavers et réalité où l'auteur belge affirme la profondeur de son écriture dessinée. Nous serons avec Sacha Görg vers 14h15 pour qu'il nous présente Tim et Sacha. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Fabien est en régie, vous l'avez entendu. Alors pour les musiques, en fait, j'ai choisi un micro-label de musique bruxellois qui s'appelle Nye 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 Nye, et on pourra écouter successivement Pain, Peritel et Les Hommes Boîtes. Ça, c'est pour la musique. Alors, les prix d'Angoulême ont été décernés. Il y a donc eu le grand prix donc, qui est à Apposi Simons, j'en ai parlé la semaine dernière. Et puis, le fauve du meilleur album de l'année a été attribué à Daniel Clowes pour son livre Monica, dont je parlerai certainement la semaine prochaine. Mais si un entretien avec Daniel Clowes peut se mettre en place, eh bien, j'attendrai ce moment-là. Il y a en tout cas un point intéressant, important, c'est que le prix de ce Fauve d'Or, le meilleur album de l'année, est vraiment décerné dans une sélection de livres de l'ensemble de la Terre. Donc il n'y a pas de référence ou de lieu géographique nécessaire, et quel que soit le genre, ça peut être du manga, du comics, du graphic novel, du roman graphique, un album franco-belge classique, voilà, tout est possible. Et donc cette fois c'est un graphic novel, celui donc de Daniel Clowes, Monica, publié par les éditions Delcourt. On en reparlera, bien sûr. Et bien par la suite, allez, les Shadocks. Alors, démarrons cette émission avec des livres qui vont avoir des liens, bien sûr, avec l'archipel de Sacha Görg, et commençons par le nouveau tome, le 9, des Petits Riens de Lewis Trondheim. Ce tome 9 s'intitule Les chemins de désir, et la couverture donne une piste pour éclairer ce que sont ces chemins de désir. On voit donc Lewis Trondheim qui se représente de façon animalière, avec une tête d'oiseau, et il traverse une plate-bande où le chemin a été tracé à force que les habitants empruntent ce chemin, alors qu'au départ, ça doit être de la pelouse. Les chemins de désir, c'est vraiment ça. Ce sont des chemins qui sont empruntés par l'habitude et qui se constituent eux-mêmes, et à tel point que les architectes, avant de faire un espace paysager, eh bien, laissent la population emprunter les différentes possibilités et voient où sont les chemins habituels de la locomotion. Et à partir de ces chemins de désir, vont implanter les chemins qui seront dessinés définitivement pour l'espace paysager. Dans ces petits riens de Lewis Trondheim, on a ce rapport au quotidien qui est fait avec justement ces situations qui en apparence sont anodines. Et puis il y a donc l'auteur qui va extraire ce moment de la journée, toute simple, et puis va en faire un élément narratif de récit. Alors souvent c'est une page, parfois deux, mais à chaque fois c'est une façon de pointer une situation qui peut passer complètement inaperçue. Alors dans ces chemins de désir, Lewis Trondheim va beaucoup voyager, c'est son métier qui lui permet, donc c'est un auteur reconnu et il peut être invité dans de très nombreux endroits dans le monde, et puis il peut aussi le faire pour sa propre volonté personnelle. Et ces chemins de désir, ces petits riens de Lewis Trondheim, c'est une façon de détourner complètement le carnet de voyage. Lewis Trondheim s'est toujours tenu à distance de cette écriture parce qu'il considère que voyager en ayant toujours dans l'idée qu'est-ce que l'on va écrire dans notre carnet de voyage et qu'est-ce qu'on va compiler, il y avait un moment où finalement on ne prêtait plus attention au voyage et on se retrouvait avec une matière un peu inexistante parce que c'était pas forcément la bonne approche. Donc, on va être à des endroits très divers dans le monde et on va retrouver à chaque fois ces petits riens. Alors, il y a donc les joies et les tracas entre quelques petits riens, Lewis Trondheim va faire des dessins d'architecture qui seront souvent dénués de récits. Et puis, il y a toujours son trait qui... Alors, c'est une représentation animalière. Ça, c'est un principe de base dans l'écriture autobiographique de Lewis Trondheim et dans la plupart de ses récits et dans même la quasi-totalité. Et il y a donc toujours une représentation animale qui est faite avec ce trait efficace, simple, dont on sent toujours la main qui trace. Il n'y a pas de rectitude froide de l'outil mécanique, mais il y a donc aussi bien dans la calligraphie que dans le trait, cette efficacité, ce trait direct qui permet d'écrire en bande dessinée et au lecteur d'être vraiment dans ces instants-là. Il y a une ironie aussi dans ce trait et qui est amplifiée par la représentation animalière. Lewis Trondheim a une façon bien à lui de faire les yeux et qui peuvent être simplifiés simplement par un seul trait qui représenterait ces deux yeux avec des sourcils froncés. C'est une succession de petits riens et qui ont vraiment tout pour être un grand réjouissement pour le lecteur. Les petits riens de Lewis Trondheim sont publiés par les éditions Delcourt dans la collection Shampoing et les 128 pages de ce livre sont au prix de 13,50 € et le livre a été imprimé en France. Virgule. Alors, dans les petits riens de Lewis Trondheim, il y a une représentation de la ville qui fonctionne tout à fait. Et là, avec Black Sad, c'est une autre approche à la fois du dessin. Il y a un lien entre les deux, c'est le choix d'une bande dessinée animalière. Black Sad, c'est ce chat détective qui vit dans un monde qui a des accents réels patents, et notamment par cette écriture de la ville, et puis qui est peuplé d'animaux de toutes sortes. Alors, est paru fin 2023 le deuxième tome du diptyque « Alors, tout tombe ». Black Sad, c'est deux auteurs espagnols, Juanro Guarnido et Juan Diaz Canales, le premier pour le dessin et le deuxième pour la partie scénario. Alors, le récit, c'est vraiment du polar. On est dans une histoire où Black Sad va enquêter sur Solomon, qui est le maître bâtisseur de New York à l'origine de l'immense pont en construction. Black Sad va découvrir que l'empire du Faucon est bâti sur un monceau de cadavres dont Iris Allen, qui est la directrice de théâtre et qui n'est malheureusement pas la première victime de Solomon. L'ami de toujours de Black Sad, Weekly, qui est journaliste et renard de son état, va être piégé par Solomon. Il va être accusé du meurtre d'Iris et une course vraiment intense contre la montre va débuter pour Black Sad pour qu'il puisse réunir les preuves innocentant son ami et permettant de faire tomber l'architecte. Et puis il va y avoir un amour fort qu'on a découvert dans d'autres épisodes, Alma, qui va refaire surface et qui va donner encore un peu plus de piment à cette affaire. Ça, c'est pour la partie récit. Alors, c'est vraiment les ambiances de polar new-yorkais. La période n'est pas vraiment déterminée puisque là, nous sommes après la crise de 29, c'est évoqué à plusieurs moments. Et pourtant, le pont de Manhattan, le pont de Brooklyn, n'est pas encore construit alors que sa construction s'est achevée en 1909. Mais quelque part, c'est absolument sans importance parce que le principal de cette histoire, c'est les ambiances. C'est vraiment aussi dessiner la ville. Dès les pages de garde, on a une esquisse de ce que peut être la ville sous le dessin de Guarnido et c'est extrêmement convaincant. Ça l'est tout autant dans les pages, alors qui cette fois sont beaucoup plus précise, finalisée avec un trait qui a trouvé sa forme définitive. Et donc, on va avoir une ville qu'on aborde par les carrefours, par une vue d'un bidonville, des points de vue du haut, les bords de mer, les villas des quartiers résidentiels. Il y a du lointain dans les cases qui va vraiment nous permettre d'aborder cette ville avec toute sa vie. Et Guarnido s'interdit de simplifier les images sous prétexte qu'il y a une profondeur dans la case qui va permettre de simplifier l'arrière-plan. Les effets de population, de foule, sont vraiment saisissantes. Il y a une scène dans un parc qui accueille une troupe de théâtre pour une pièce de Shakespeare. Il y a du monde. Eh bien, tout est là. On est vraiment avec le public à l'écoute de cette pièce de Shakespeare. Il y a aussi des visions souterraines. Il y a les chantiers du tunnel du métro. On est avec les ouvriers et il y a vraiment cette intensité de la représentation. Guarnido sait tout dessiner et il est capable de l'utiliser pour mettre ses images au service du récit avec une très grande efficacité. Il y a des questions de dessinateur qu'il se pose, comme par exemple une scène sous la neige où il va falloir pour lui représenter la neige qui tombe avec intensité sous New York. Pour compléter, les auteurs ont cherché affiner cette représentation animalière, il y a donc un lien entre l'animal et la fonction du personnage qu'il a, mais aussi avec son tempérament. Et donc, ça rajoute de l'intensité à cette représentation des personnages par des animaux. Et puis, il y a le dessin de Juano Guarnido qui va donner une expression humaine à des animaux, et c'est tout à fait saisissant. On ne pourra plus regarder les animaux de la même façon. On va attendre qu'ils aient, en les regardant, une expression de stupeur ou de bonheur, un petit regard en coin. Tout ça, les animaux de Guarnido en sont capables. Il y a, après la qualité des dialogues de Juan Diaz Canales, avec ce sens de l'intrigue, on a l'impression d'être dans un très bon Dashiell Hammett. La Moisson Rouge était le premier roman où il y avait cette collusion entre la mafia et les politiques. On retrouve ces ambiances poisseuses où du politique et de la police, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire et redire. Et là, tout ça avec des animaux qui vont porter aussi les malaises de cette société. C'est un grand Black Sad, bien évidemment à lire en reprenant le tome 1 de ce diptyque, et donc c'est un vrai plaisir de lecture, et c'est même, à la fin, on se dit, on n'en revient pas comment ces animaux peuvent être aussi vivants. Ils ont la station debout, il n'y a pas que des mammifères, il y a des oiseaux aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé du faucon, et il tient pleinement son rôle. Black Sad, tome 7. Alors tout tombe, c'est la seconde partie de Juanro Guarnido et de Juan Diaz Canales. C'est traduit par Christia Vassero et c'est publié par les éditions d'Argo. Les 56 pages de ce livre sont au prix de 17 € et il a été imprimé en France. Musique avec Payne.
Do care if you take the fall when I tumble? Do I break you, my?
Le dernier livre de Sacha Goerg met en scène Tim et Chloé. Lui mène une vie oisive dans les beaux quartiers. Elle vit sur l'archipel dans un entassement de logements sociaux. Un improbable chassé-croisé amoureux sur fond de crise climatique enlisée. Sacha Goerg imagine un futur où le métavers permet de simuler l'état de la ville dans 20 ans. C'est là que Tim et Chloé se rencontrent. Dans ce monde où l'humain accepte le poids des diktats relationnels du numérique, les nantis rêvent de quitter la ville, les précaires redoutent que l'archipel sombre et eux avec. L'archipel est porté par un dessin à l'énergie, où les silhouettes sont marquées par un trait vif et ironique. La beauté de Tim et de Chloé adviendra comme une conquête, celle des sentiments. La force de ce récit tient dans l'évolution de ce duo au caractère trempé, tout de suite pour Chloé et pour Tim, il l'affirmera tout au long de ce récit. Une histoire à hauteur d'humain marquée par cette société du paraître. Dans l'archipel, Tim et Chloé doivent réinventer leur rapport au monde. Sacha Goerg est le cofondateur de la maison d'édition belge L'Employé du Mois. Il est auteur et éditeur. Cependant, l'archipel est édité par Gallimard Bande Dessinée. Bonjour Sacha Goerg. Alors, j'ai peur d'écorcher votre nom. Comment doit-on dire ?
Oui, bonjour. C'est tout à fait comme ça, Goerg.
C'est parfait. Alors, je vais continuer.
Ouais.
Alors, lorsque on regarde votre site internet, il y a une photo où vous êtes debout sur un ensemble de pages étalées au sol avec le découpage de l'archipel. Alors, vous mentionnez aussi dans la légende qui est à côté, Johanna Loro, dont on vient d'entendre un morceau, et qui a donc participé à ce découpage. Alors, partons de là, si vous le voulez bien, pour racontez-nous comment se passe à la fois cette collaboration et ce travail d'écriture dessinée.
Bon, en fait, Johanna, c'est ma femme, donc c'est mystérieux comme histoire. Et il se trouve qu'elle est aussi dans des questions de dessin, de narration, qu'elle enseigne ça dans une école à Bruxelles. Donc, quand je dois, moi, avoir des avis sur mon récit, sur un récit que je produis, c'est une des premières personnes, avec une grande évidence, à qui je demande de faire des relectures, parce que là, voilà, un sens assez aiguë, des qualités de script doctoring, comme on dit, me semblent assez pertinentes, quoi. Donc, voilà, d'où cette photo, en tout cas, sur mon site, qui est d'ailleurs pas très à jour, mais où c'était une étape assez importante, je sais plus quand ça date, mais c'était déjà pas tout frais, où j'avais enfin l'ensemble du récit, qui m'a mis beaucoup de temps à sortir, enfin cet ensemble du récit, j'avais tout imprimé, tout mis au sol, pour un peu avoir une espèce de vision globale du travail dans une fois.
Alors, l'archipel est un récit d'ampleur, il y a 240 pages. Donc, comment se fait la partie écriture ? Qu'est-ce qui a déclenché la naissance de l'archipel ?
Au départ, c'était un projet entre guillemets comme un autre, c'est-à-dire que ça date vraiment, j'ai commencé ce projet il y a très longtemps, j'ai fait d'autres choses entre-temps, je l'ai laissé tomber. Et donc, quand je dis un projet comme un autre, et voilà, je cherchais juste à faire une histoire, et j'ai pris des éléments, donc voilà, moi j'aimerais bien faire. J'ai envie de raconter une histoire d'amour, une rencontre amoureuse, on va dire. Et puis voilà, j'avais cette idée de faire un récit d'anticipation aussi. Au début, le projet était très différent, quand même assez différent, dans le sens que le métavers, comme vous le dites, comme il est présenté là dans le récit, c'était quelque chose de différent. C'était déjà un métavers, mais plus de l'ordre du jeu vidéo, mais ça fonctionnait pas. Et j'avais en tout cas envie, c'est simplement cette envie de raconter un chassé-croisé amoureux, comme ça a été dit, de gens qui arrivent pas vraiment à se rencontrer, en fait, qui se croisent au mauvais endroit, qui arrivent pas à se croiser dans la vraie vie, en fait. ça, j'ai gardé cette idée jusqu'au bout. Mais voilà, et puis suite à ça, toute une série de choses sont venues s'accumuler, des envies de pouvoir raconter plein de choses du monde actuel, la crise climatique, etc. Sans forcément me dire que j'allais changer le monde pour autant, mais voilà, en me disant que c'est quand même important de faire un récit qui parle un tout petit peu de toutes ces choses qui m'intéressent aujourd'hui, et qui intéressent, j'imagine, plein de gens.
Alors, avant de continuer, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est le métavers ? Parce que je pense que ça doit laisser quelques auditeurs assez stupéfaits. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, moi, je ne l'appellerais pas vraiment comme ça. Donc, là, j'ai repris le terme qui était utilisé, que vous avez utilisé, mais je ne sais pas comment j'appellerais ça. Moi, j'ai juste pensé à un dispositif. J'ai cherché au niveau scénaristique un dispositif un petit peu original, comme une sorte de science-fiction. Et donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de penser à un truc voilà qui n'existe pas. Donc c'est pas le métavers comme Mark Zuckerberg l'imaginerait ou essaie de l'imaginer. C'est là un dispositif qui permet plutôt un rêve collectif. Donc ça s'utilise simplement pendant le sommeil, dans l'histoire. Avec d'ailleurs du matériel assez obsolète, un vieux téléphone, enfin, des choses qui, au moment dans l'histoire, sont difficiles à trouver. Et des bricolages, j'aime bien cette idée aussi de bricolage technologique avec de la vieille technologie, en fait. Sachant que la nouvelle ou la technologie actuelle dans l'histoire devient extrêmement formatée, contrôlée, un peu comme maintenant, et que finalement, il faut faire des vieilles technologies pour pouvoir accéder à plus de liberté. Voilà, et donc voilà, là dans l'idée il y a une espèce de rêve collectif qui était juste un outil pédagogique à l'origine pour pouvoir se projeter dans l'avenir et voir un petit peu mais ce que l'avenir pourrait être, où on habite, tout en dormant, tout en rêvant, sauf que le système a été détourné et que voilà, il y a des gens qui s'y baladent, c'est plus une espèce de zoo, un endroit pour s'amuser, etc.
Sacha Gerg, il y a dans la relation entre Tim et Chloé une impossibilité presque de départ. Il y a vraiment différence de classe, différents de lieux de vie, vraiment un attachement à la vie même qui est pas le même. C'est un défi que vous vous êtes lancé en essayant de créer cette relation amoureuse entre deux êtres si distants.
Oui, de nouveau, je pense que c'était vraiment une idée un peu presque conceptuelle, moins fort, mais enfin voilà, d'essayer de dire tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'avais vraiment des personnages qui étaient un petit peu vraiment pas du même monde. Voilà, en y repensant, j'aurais pu forcer le trait, je trouve que j'étais un peu doux finalement. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt fortuné, mais il n'est pas non plus un ultra riche. Et Chloé, elle n'est pas non plus dans une pauvreté fondamentalement, honnêtement. Forcément très réaliste, hein. Donc on a un peu imagé tout ça, quoi. Mais quand on voit en fait actuellement ce qui se passe aujourd'hui en 2024 par rapport à la vraie pauvreté, aux vrais ultra riches, on dit que voilà, j'aurais pu encore aller beaucoup plus loin. Mais de toute façon, avec tout ce récit, j'ai mis du temps à le faire, je me suis un peu fait rattraper par la réalité à plein de niveaux. À un moment donné, ça a commencé un peu à m'angoisser, d'ailleurs, je me disais, mais j'ai imaginé un truc qui peut-être arrivera, et puis finalement, à part les voitures autonomes qui sont pas arrivées, parce que je chantais dans le récit un peu pour m'amuser, j'ai mis quelques voitures autonomes. Bon, ça n'arrive pas, mais semble-t-il, mais à part ça, il y a malheureusement la réalité rattrape cette fiction, quoi. Un gros pas. Donc,
voilà. Comment travaillez-vous les dialogues, Sacha Gerg? Parce que il y a vraiment une... On a presque l'impression de les entendre, c'est vos différents personnages. Est-ce que vous les travaillez à haute voix? Comment se passe cette partie-là?
C'est gentil. Je réécris beaucoup. Et c'est assez douloureux. Donc ça fait plaisir d'entendre que ça a l'air de fonctionner. Je tape les dialogues, je les écris pas à la main, je les tape au fond de la source, seulement c'est plus rapide parce que j'ai besoin de réécrire beaucoup. Et je tape ça dans le crayonné, donc les tableaux sont sur la page, et je me relis, et tant que c'est pas fluide, tant que ça bloque, je rechange, je modifie les choses, et je repasse vraiment parfois beaucoup, peut-être parfois beaucoup trop, jusqu'à ce que ça me semble relativement évident, un peu comme une partie de musique, ça doit sonner juste en fait. Mais voilà, donc il y a beaucoup de réécriture, ce qui d'un autre côté me semble assez normal, parce que je sais que les scénaristes m'ont déjà dit que c'est une partie des dialogues qui a priori demande ce travail là. Donc c'est pas normal de le faire comme ça, mais il n'y a pas vraiment de recette, c'est juste repasser plusieurs fois et réécrire plusieurs fois.
Sacha Görg, je vous propose une pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes après ce morceau de Péritel pour parler plus précisément de dessin. À tout de suite.
J'aime le bruit de la ville quand tu t'endors. J'aime le bruit des portes quand tu t'en vas. J'aime être avec moi. J'aime quand t'es pas là. Réveille-moi quand ce monde ira mieux, que ton sourire à demi radie. Réveille-moi quand ce monde ira mieux. Réveille-moi. Vivre des émotions par centaines. Je t'ai regardé en slow motion. Tes rêves par tonnes et par kilomètres. Tes drôles d'envie quand j'ai peu dormi. Je veux vivre une vie oisive, une vie pleine de courtoisie. Des rêves par tonnes et par kilomètres. Et drôles d'envie quand j'ai peu dormi. Vivre des émotions par centaines. Je t'ai regardé en slow motion. Réveille-moi quand ce monde ira mieux. Pourquoi j'aime bien quand tu t'en vas? Pourquoi j'ai peur quand t'es pas là? Pourquoi je pense toujours à toi dès que tu n'es pas là? Pourquoi j'aime bien quand tu t'en vas? Pourquoi j'ai peur quand t'es pas là? Pourquoi je pense toujours à toi dès que tu n'es pas là? J'aime le bruit de la ville quand tu t'endors. J'aime le bruit des portes quand tu t'en vas. J'aime être avec moi. J'aime quand t'es pas là. J'aime le bruit des clés quand on s'enfuit. J'aime quand on recourt ce qu'on déchire. J'aime te voir sourire. J'aime te retenir. Parfois je me dis que je devrais faire des abdos. Mais ta lettre me confirme que tu me prends tel que je suis. Comme le menu clic, boisson plus frites. Lorsque l'ampoule vacille et que je te fixe dans la pénombre, tu as l'air si triste. Je crois que j'aimerais te revoir, mais je ne sais plus vraiment s'il est trop tôt ou trop tard.
Pourquoi j'aime bien quand tu t'en vas? Pourquoi j'ai peur quand t'es pas là? Pourquoi je pense toujours à toi dès que tu n'es pas là? Pourquoi j'aime bien quand tu t'en vas? Pourquoi j'ai peur quand t'es pas là? Pourquoi je pense toujours à toi dès que tu n'es pas là?
J'aime le bruit de la ville quand tu t'endors. J'aime le bruit des portes quand tu t'en vas. J'aime être avec moi. J'aime quand t'es pas là. J'aime le bruit des clés quand on s'enfuit. J'aime quand on recourt ce qu'on déchire. J'aime te voir sourire. J'aime te retenir. J'aime te retenir. J'aime te retenir. J'aime te retenir. J'aime quand on recoue ce qu'on déchire.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Sacha Görg pour son livre L'Archipel. Sacha Görg, vous avez un dessin très, très vif. Quel dessinateur êtes-vous? Comment ça se passe sur votre table à dessin?
Alors, comment ça se passe? Je sais pas, je peux parler du procédé. J'ai besoin, si j'ai vraiment dessiné, je pense que j'ai besoin d'avoir une histoire. Là, dans ce cas-là, ça marchait bien. J'avais quelque chose d'assez long sous la dent. Et voilà. Et je prépare de plus en plus, malheureusement, quelque part, dessin à l'ordinateur, en fait. Mais pour ce projet-là, particulièrement, je suis revenu à un ancrage manuel, classique, pour vraiment avoir des sensations, non numérique justement, avec parfois des erreurs aussi, parfois des papiers qui résistent un petit peu sous la main. C'est quand même quelque chose d'assez important. temps et avoir d'autres sensations que le tout numérique, même si je l'ai déjà pratiqué pour des albums entiers, en fait. Voilà. Après, j'aime aussi, il y a de la couleur, donc il y a l'étape colo. Là, je reste avec de l'aquarelle, que j'aime bien aussi, qui amène aussi son lot d'accidents. Voilà. Et puis, il y a un petit peu d'ordinateur à la fin pour rebooster les couleurs. Pas toujours, ça dépend des pages. Voilà. Mais donc il y a cette notion d'accident quand même que je cherche et que je trouve encore trop sage, je pense que je devrais oser plus de ce côté-là parfois.
Il y a dans l'archipel plusieurs scènes de violence où le geste est intense. Est-ce que là il y a un travail particulier, comment savez-vous que vous êtes satisfait de votre dessin, Sacha Goerg?
Bonne question. Ça c'est un truc, je pense qu'on le sent. En effet, il y a ces scènes plus violentes, mais je sais pas, les premiers dessins se posent tout le temps, en fait. Alors c'est vrai qu'il y a une autre dynamique quand il y a des scènes de violence. Là, on est plutôt dans des questions de chorégraphie, de dynamique dans la page. Je pense que ce que je regarde là, vraiment, c'est comment le regard circule dans la page. C'est vraiment le... Voilà, il faut qu'il y ait il y ait quelque chose qui se passe à ce niveau-là, que ça soit de nouveau assez évident, et qu'il n'y ait pas d'arrêt, ou des arrêts dans le bon sens, c'est-à-dire que quand il y a un coup, des choses comme ça, on doit le sentir comme quelque chose qui reste au regard. Voilà, après, comme plein de projets, celui-là, j'ai eu, par rapport à la question de la satisfaction du dessin, j'ai fait pas mal de pages, au début surtout, que j'ai dû recommencer. Et parfois, moi, j'ai pas trop de... Je sacralise pas trop la planche. Il m'est arrivé sur la fin aussi de reprendre certains dessins numériquement, alors que c'était ancré, parce que c'était pas satisfaisant. C'est bien, c'était trop maladroit, simplement. Ça manquait de quelque chose d'évident. Je sais pas comment dire. Là, j'ai pas les bons mots. J'ai pas la recette, magique.
Comment se passe l'ancrage? Parce que c'est quand même le moment où le dessin va prendre une forme définitive. Est-ce qu'il y a un geste particulier? Est-ce que le fait d'avoir de nouveau cette ultime action sur la case, la page, la double page, est-ce qu'il y a une situation particulière à ce moment de l'ancrage? Des auteurs comme Isler disent qu'ils sont complètement tétanisés par l'ancrage et ils n'en font plus.
Ah oui. Oui. Non, mais c'est sûr que l'ancrage, c'est le moment où on peut bousiller, entre guillemets. C'est un classique chez les dessinateurs. Moi, j'enseigne la bande dessinée. C'est tout le temps comme ça, quasiment. C'est-à-dire, c'est crayonné à toute l'énergie du monde. Et au moment de l'ancrage, tout s'éteint, s'arrête, parce qu'on veut bien faire, on s'assied. Et alors, on change d'outil aussi. Il n'y a rien. Et alors, entre guillemets, il n'y a pas d'enjeu quand on crayonne. Et alors, au moment de l'ancrage, il y a un enjeu terrible qui est on termine la chose, quoi. Donc évidemment, l'enjeu, c'est de se remettre dans cet état, c'est-à-dire de dire qu'on en croit, on ne met pas trop la pression. En même temps, il faut quand même mettre la pression, parce qu'il faut quand même tendre les choses, il faut être attentif, concentré. J'ai eu, en faisant l'archipel, parce que je travaillais pas mal, un peu par obligation, par choix, sur mes soirées, que je devais terminer à un moment donné. Et je sais qu'il y a une fois, un soir, où on crée une page entière un soir, et j'étais très content de moi, en allant me coucher, et le lendemain, c'était pas bon. Parce que j'étais fatigué, parce que j'étais pas vraiment là, en fait. Donc, il faut trouver juste ce moment un peu de flottement, où on est attentif, mais où on arrive à se détacher des choses, pour que les choses se détachent et laisser un petit peu son intention travailler à sa place. C'est aussi pour ça que beaucoup de dessinateurs disent que il y a quand même un moment assez agréable, parce qu'on exécute simplement les choses, on réfléchit moins, on peut mettre de la musique dans ses oreilles, écouter quelque chose, quelqu'un parler, ce qui permet au cerveau d'être un tout petit peu ailleurs, attentif, mais un tout petit peu occupé à faire autre chose, et c'est un peu le meilleur moment, je pense, pour que l'ancrage se passe bien.
Sacha Gung, l'archipel, c'est aussi une écriture dessinée de la ville, aussi bien à travers cette île de logements sociaux entassés que les beaux quartiers, les lieux de plaisir, de vie sociale. Comment avez-vous abordé sur l'ensemble du récit cette représentation de la ville? On a l'impression que les personnages vont rester vraiment au plus près du lecteur et ne pas que la ville ne les étouffe pas.
Moi, cette ville, oui, ça m'a posé pas mal de questions. Genre, quel genre de ville je fais? Parce que je n'ai pas une ville qui existe, correspondait à une autre ville, mais je me suis dit, bon, est-ce que je prends une ville, par exemple, en France, qui existe, et je me base vraiment là-dessus. Et bon, en même temps, j'avais envie de, on est dans une projection, un peu dans l'avenir, je me suis dit, bon, je peux décaler tout ça. J'avais envie d'avoir des formes particulières, parce que c'est un truc qui était déjà au tout début, comme il y a ce centre commercial, il ressemble à un gros caillou, des choses comme ça. Je pourrais aimer faire ce genre de choses. Je me suis amusé à faire les représentations de quand même des maisons, enfin des beaux quartiers qui sont simplement des villas. Ça m'a amusé aussi un peu de regarder librement ce que ça pouvait être, ces maisons, ces grosses baraques un peu costumées. Voilà. Et puis alors il y a l'archipel aussi, qui est alors un endroit complètement étrange, je sais pas si on va peut-être pas révéler exactement ce que c'est cet endroit, c'est une île, mais c'était autre chose à la base, dont on a fait quelque chose, qu'on a arrimé des conteneurs flottants pour loger des gens. Et là, j'ai cherché aussi pas mal, évidemment, avant d'avoir cette idée, quoi, mais voilà, je trouve intéressant d'avoir quand même des lieux, qui sont pas trop neutres, mais je l'ai dit, parce que, bon, là, le livre porte le nom de l'endroit, c'est un personnage du récit, évidemment, quoi, c'est assez important.
Est-ce que au moment de l'achèvement, lorsque le dessin est là, la mise en couleur est faite, est-ce qu'il y a une relecture? Est-ce que vous changez encore des choses? Qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là de la fin du livre, Sacha Gung?
Il peut arriver plein de choses. La question, c'est combien de temps on a? Je pense que comme plein d'auteurs, ça dépend des tempéraments, il y a des gens, ils avancent, ils se retournent pas trop, mais moi, je suis éditeur aussi, je sais que des fois, on doit arrêter les auteurs dans leur envie de reprendre, recommencer. Évidemment que les pages du début, quand on a fait, si on fait de ce qu'on a, j'ai un peu 140 pages, quand on regarde celle du début, on dit que forcément le trait a bougé, les personnages sont plus en main, on veut les reprendre. Donc oui, on reprend. Moi, je me permets, entre guillemets, de reprendre quelques petites choses. Vraiment, ça me choque, ce petit détail-là, c'est pourri, etc. Il y a le travail de l'éditeur, l'éditrice, dans ce cas-là, qui aussi, des fois, me faisait des petites remarques, des petites choses de finition graphique, en fait, en disant, attention, là, le personnage, le visage, de loin, il est un peu indéfini, des choses comme ça. Voilà, mais à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter, parce qu'on sait que, en fait, à un moment donné, il n'y a plus que nous qui voyons ça, et que quelqu'un qui lit le livre, qui passe peut-être, je sais pas moi, des fois 15 secondes sur une page, on va pas se rendre compte de ça, et que le récit ne joue pas non plus à ses réglages graphiques, à ses corrections. On peut toujours reprendre, mais que l'histoire se passe pas que là, j'espère, en tout cas, normalement elle se passe aussi dans le récit, et dans l'émotion qui est transportée, quoi.
Merci beaucoup, Sacha Gung. Je vais rappeler les références de votre livre, donc L'Archipel, qui est publié par Gallimard Bande Dessinée. Les 240 pages sont au prix de 27 euros. J'ai arrondi. Eh bien, très bonne continuation à vous et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Il y a ces choses que vous auriez dû faire, il y a des choses que vous auriez dû faire.
C'était les Hommes Boîtes, un autre artiste du label bruxellois. Je ne sais pas si j'en ai dit assez ou trop, mais ce n'est pas grave. Je voudrais terminer avec la fin du triptyque de Charles Burns, Dédale. C'est donc un triptyque qui a été commencé il y a maintenant quelques années. Je crois que c'était 2020, la parution du premier. Et donc, fin 2023, on a eu ce troisième volume d'un projet à la puissance narrative inhabituelle. Ça ne l'est pas du tout pour Charles Burns, qui est un auteur américain, qui est marqué par, dont on reconnaît le style par ce dessin d'un extrême soin. On imagine l'artiste en train de travailler au pinceau chaque trait avec une qualité de geste qui fait qu'il n'y aura aucun tremblement dans le dessin, aucune approximation. Et donc, on est vraiment dans cette écriture dessinée où il y a cette précision constante. Et ça se voit d'autant plus que Charles Burns travaille avec un marquage, une façon de représenter les ombres, les modeler. Et donc on a ces traits qui vont s'effiler. Eh bien, chaque extrémité de trait est vraiment d'une justesse. Il n'y a aucune espèce de désaccord, d'imprécision qui ferait que toute l'image semblerait plombée par cette petite erreur. Donc on a cette écriture qui finalement affirme une réalité. Alors, Charles Burns, dans ses projets précédents, eh bien, va créer un malaise dans ces réalités magnifiquement dessinées. Et Dédale reprend et même amplifie ce type de choix. Alors, Dédale, c'est la rencontre entre Brian Milner et Laurie Doon. Brian Milner, avec un de ses amis, Jimmy, a écrit et fait réaliser des films d'amateurs. Et là, ils repartent dans l'ensemble de ce triptyque pour écrire un nouveau film. Et ils convient deux amis à eux, Tina et Laurie. Donc le troisième tome de ce diptyque, on est au moment du clap de fin. Il y a eu la rencontre entre Brian et Laurie dans le tome 1. Il y a toutes les difficultés pour faire aboutir ce tournage, pour faire des captations, tourner des scènes dans le tome 2. Et puis, dans le tome 3, eh bien, nous nous rapprochons de cette fin du film. Donc, les protagonistes se réunissent une dernière fois près d'un lac pour tourner les ultimes scènes dans leur film amateur. Soirée autour d'un feu de camp, on grille les poissons pêchés dans la journée. C'est plutôt un moment de fête avec tout ce qu'il faut pour faire un joyeux happy end. Et pourtant, l'histoire va un peu se perturber, bien évidemment. Alors, il y a donc ces deux outils, la caméra pour filmer et puis le dessin qu'on va voir apparaître à travers les dessins faits par Brian, donc qui a un carnet de croquis et qui dessine presque de manière compulsive. Et à plusieurs moments, on aura les dessins en crayon qui vont être présentés dans chacun des trois albums. Donc on a ces deux outils qui vont nourrir la créativité de Brian. Il y a donc une interrogation sur ce que peut être l'image film et l'image dessinée. Et la bande dessinée va jouer sur cette façon que la bande dessinée a de représenter une réalité. Et tout de suite, et c'est aussi un des thèmes essentiels de l'œuvre de Charles Burns, c'est ce côté fantastique, c'est le décalage qu'il va y avoir dans une réalité. Le tome 1 démarre par exemple au moment où Brian se voit son reflet dans un grille-pain et va imaginer se représenter, et en fait le dessin est purement sorti de son inconscient, une sorte de forme vivante, mais qui serait comme une sorte de méduse avec un corps qui serait solidifié. C'est donc une image très étrange. Et là aussi, tout au long de Dédale, il y a ces allers-retours entre l'inconscient et la réalité. Et les passages où Charles Burns va représenter les films, aussi bien ceux de jeunesse que celui qu'il est en train de tourner, eh bien, il y a cette irruption aussi dans l'image film de l'élément fantastique. Et on a à la lecture le sentiment que pour Charles Burns, eh bien, c'est parce qu'il va y avoir cet élément fantastique que l'image film commence à être vraiment intéressante. Et donc, pour lui, dans la bande dessinée, avec ce jeu et cette distance très, très étroite, très infime entre l'inconscient et la réalité, entre ces moments où on a un récit en images avec les différents protagonistes où Laurie va exprimer son attirance pour Brian, où Brian va montrer plutôt une sorte d'évitement tant il est un peu coincé dans ses sentiments et qu'il n'arrive pas à exprimer à Laurie. Il y a donc un côté romantique qui s'affirme, mais qui va être justement perturbé et intensifié par ce rapport entre l'inconscient et la réalité. Et il y a une nouvelle piste narrative dans cette histoire qui est, à mon avis, essentielle. En littérature, plusieurs écrivains ont cherché à utiliser des jeux différents tout au long du récit. C'est par exemple le cas de Mary Shelley avec Frankenstein, où on a un jeu qui est utilisé aussi bien par la créature, son créateur, que le narrateur qui parle de cette rencontre. Dans Sébastien Japrisot, dans L'été meurtrier, on a trois points de vue sur une même histoire. Là, les récitatifs vont être ceux de la pensée, aussi bien de Brian et de Laurie. Et le travail, l'inventivité de Charles Burns, c'est de vraiment être, de pouvoir passer de l'un à l'autre avec une très grande facilité, sans surcharger et dire, ben voilà, à tel moment, c'est un tel qui parle. Donc, ce sont les situations et il y a toujours une séquence de dialogue qui sépare les moments où on a les pensées de Brian ou les pensées de Laurie. Donc on n'a aucune hésitation au moment de la lecture et ça donne vraiment une intensité à cette histoire, cette grande histoire, à ce triptyque, puisqu'on a vraiment ces deux points de vue qui vont cohabiter tout au long du récit, aussi bien celui de Brian que celui de Laurie, qui auront donc la même importance dans cette histoire. C'est une très grande réussite d'avoir réussi à maîtriser cela. Le dessin, comme je le disais, est assez exceptionnel et c'est vraiment, pour moi, un des très grands auteurs actuels et il y a une réussite de bout en bout où à aucun moment le récit fléchit et c'est trois volumes, un triptyque exceptionnel. Dédale de Charles Burns, donc trois volumes publiés par les éditions Cornelius. Les traductions et adaptations sont de David Langlais. Il y a une calligraphie réalisée par Jean-François Rey, qui est donc très à propos. Chaque volume est au prix de 23,50 €. Et ben, je peux que vous souhaiter une très bonne semaine sur les ondes de Radio Escapade. Merci Fabien. Écriture dessinée.